Félicité Robert de Lamennais, Parole d'un croyant, 21. Le peuple est incapable d'entendre ses intérêts. On doit, pour son bien, le tenir toujours en tutelle. N'est-ce pas à ceux qui ont des lumières de conduire ceux qui manquent de lumière ? Ainsi parlent une foule d'hypocrites qui veulent faire les affaires du peuple, afin de s'engraisser de la substance du peuple. Vous êtes incapables, disent-ils, d'entendre vos intérêts. Et sur cela, ils ne vous permettront pas même de disposer de ce qui est à vous pour un objet que vous jugerez utile. Et ils en disposeront, contre votre gré, pour un autre objet qui vous déplaît et vous répugne. Vous êtes incapables d'administrer une petite propriété commune, incapable de savoir ce qui est bon ou mauvais, de connaître vos besoins et d'y pourvoir. Et sur cela, on vous enverra des hommes bien payés à vos dépens, qui géreront vos biens à leur fantaisie, vous empêcheront de faire ce que vous voudrez et vous forceront de faire ce que vous ne voudrez pas. Vous êtes incapables de discerner quelle éducation il est convenable de donner à vos enfants. Et, par tendresse pour vos enfants, on les jettera dans des cloaques d'impiété et de mauvaises mœurs, à moins que vous n'aimiez mieux qu'ils demeurent privés de toute espèce d'instruction. Vous êtes incapables de juger si vous pouvez, vous et votre famille, subsister avec le salaire qu'on vous accorde pour votre travail. Et l'on vous défendra, sous des peines sévères, de vous concerter ensemble pour obtenir une augmentation de ce salaire, afin que vous puissiez vivre, vous, vos femmes et vos enfants. Si ce que dit cette race hypocrite et avide était vrai, vous seriez bien au-dessous de la brute, car la brute, c'est tout ce qu'on affirme que vous ne savez pas, et elle n'a besoin que de l'instinct pour le savoir. Dieu ne vous a pas fait pour être le troupeau de quelques autres hommes. Il vous a fait pour vivre librement en société comme des frères. Or, un frère n'a rien à commander à son frère. Les frères se lient entre eux par des conventions mutuelles. Et ces conventions, c'est la loi. Et la loi doit être respectée et tous doivent s'unir pour empêcher qu'on ne la viole, parce qu'elle est la sauvegarde de tous, la volonté et l'intérêt de tous. Soyez hommes, nul n'est assez puissant pour vous atteler au joug malgré vous, mais vous pouvez passer la tête dans le collier si vous le voulez. Il y a des animaux stupides qu'on enferme dans des étables, qu'on nourrit pour le travail, et puis, lorsqu'ils vieillissent, qu'on engraisse pour manger leur chair. Il y en a d'autres qui vivent dans les champs en liberté, qu'on ne peut plier à la servitude, qui ne se laissent point séduire par des caresses trompeuses, ni vaincre par des menaces ou de mauvais traitements. Les hommes courageux ressemblent à ceux-ci. Les lâches sont comme les premiers. 22. Comprenez bien comment on se rend libre. Pour être libre, il faut avant tout aimer Dieu. Car si vous aimez Dieu, vous ferez sa volonté. Et la volonté de Dieu est la justice et la charité, sans lesquelles point de liberté. Lorsque, par violence ou par ruse, on prend ce qui est à autrui, lorsqu'on l'attaque dans sa personne, lorsqu'en chose licite, on l'empêche d'agir comme il veut, ou qu'on le force d'agir comme il ne veut pas. Lorsqu'on viole son droit d'une manière quelconque, qu'est-ce que cela ? Une injustice. C'est donc l'injustice qui détruit la liberté. Si chacun n'aimait que soi et ne songeait qu'à soi, sans venir au secours des autres, le pauvre serait obligé, souvent, de dérober ce qui est à autrui pour vivre et faire vivre les siens. Le faible serait opprimé par un plus fort, et celui-ci par un autre encore plus fort. L'injustice régnerait partout. C'est donc la charité qui conserve la liberté. Aimez Dieu plus que toute chose, et le prochain comme vous-même, et la servitude disparaîtra de la terre. Cependant, ceux qui profitent de la servitude de leurs frères mettront tout en œuvre pour la prolonger. Ils emploieront pour cela le mensonge et la force. Ils diront que la domination arbitraire de quelques-uns et l'esclavage de tous les autres est l'ordre établi de Dieu. Et, pour conserver leur tyrannie, ils ne craindront point de blasphémer la Providence. Répondez-leur que leur Dieu, à eux, est Satan, l'ennemi de la race humaine, et que le vôtre est celui qui a vaincu Satan. Après cela, ils déchaîneront contre vous leurs satellites. Ils feront bâtir des prisons sans nombre pour vous y enfermer. Ils vous poursuivront avec le fer et le feu. Ils vous tourmenteront et répandront votre sang comme l'eau des fontaines. Si donc vous n'êtes pas résolu à combattre sans relâche, à tout supporter, sans fléchir, à ne jamais vous lasser, à ne céder jamais, gardez vos fers et renoncez à une liberté dont vous n'êtes pas digne. La liberté est comme le royaume de Dieu. Elle souffre violence et les violents la ravissent. Et la violence qui vous mettra en possession de la liberté n'est pas la violence féroce des voleurs et des brigands, l'injustice, la vengeance, la cruauté, mais une volonté forte, inflexible, un courage calme et généreux. La cause la plus sainte se change en une cause impie, exécrable, quand on emploie le crime pour la soutenir. D'esclave, l'homme de crime peut devenir tyran, mais jamais il ne devient libre. 23. Seigneur, nous crions vers vous du fond de notre misère, comme les animaux qui manquent de pâture pour donner à leurs petits. Nous crions vers vous, Seigneur, comme la brebis à qui on enlève son agneau. Nous crions vers vous, Seigneur, comme la colombe que saisit le vautour. Nous crions vers vous, Seigneur, comme la gazelle sous la griffe du tigre. Nous crions vers vous, Seigneur, comme le taureau, épuisé de fatigue et ensanglanté par l'aiguillon. Nous crions vers vous, Seigneur, comme l'oiseau blessé que le chien poursuit, nous crions vers vous, Seigneur. Comme l'hirondelle tombée de lassitude en traversant les mers et se débattant sur la vague, nous crions vers vous, Seigneur. Comme des voyageurs égarés dans un désert brûlant et sans eau, nous crions vers vous, Seigneur. Comme des naufragés sur une côte stérile, nous crions vers vous, Seigneur. Comme celui qui, à l'heure où la nuit se fait, rencontre près du cimetière un spectre hideux, nous crions vers vous, Seigneur. Comme le père à qui on ravit le morceau de pain qu'il portait à ses enfants affamés, nous crions vers vous, Seigneur. Comme le prisonnier que le puissant injuste a jeté dans un cachot humide et ténébreux, nous crions vers vous, Seigneur. Comme l'esclave, déchiré par le fouet du maître, nous crions vers vous, Seigneur. Comme l'innocent qu'on mène au supplice, nous crions vers vous, Seigneur. Comme le peuple d'Israël dans la terre de servitude, nous crions vers vous, Seigneur. Comme les descendants de Jacob, dont le roi d'Égypte faisait noyer dans le Nil les fils premiers-nés, nous crions vers vous, Seigneur. Comme les douze tribus dont les oppresseurs augmentaient tous les jours les travaux en retranchant chaque jour quelque chose de leur nourriture. Nous crions vers vous, Seigneur. Comme toutes les nations de la terre avant que lui l'aurore de la délivrance, nous crions vers vous, Seigneur. Comme le Christ sur la croix, lorsqu'il dit « mon Père, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Nous crions vers vous, Seigneur. Ô Père, vous n'avez point délaissé votre Fils, votre Christ, si ce n'est en apparence et pour un moment. Vous ne délaisserez point non plus à jamais les frères du Christ. Son divin sang, qui les a rachetés de l'esclavage du prince de ce monde, les rachètera aussi de l'esclavage des ministres du prince de ce monde. Voyez leurs pieds et leurs mains percées, leurs côtés ouverts, leurs têtes couvertes de plaies sanglantes. Sous la terre que vous leur aviez donnée pour héritage, on leur a creusé un vaste sépulcre, et on les y a jetés pêle-mêle, et on en a scellé la pierre d'un sceau sur lequel on a par moquerie gravé votre saint nom. Et ainsi, Seigneur, ils sont là gisants, mais ils n'y seront pas éternellement. Encore 3 jours, et le sceau sacrilège sera brisé, et la pierre sera brisée, et ceux qui dorment se réveilleront, et le règne du Christ, qui est justice et charité, et paix et joie dans l'Esprit Saint, commencera. Ainsi soit-il. 24. Tout ce qui arrive dans le monde a son signe qui le précède. Lorsque le soleil est près de se lever, l'horizon se colore de 1000 nuances et l'Orient paraît tout en feu. Lorsque la tempête vient, on entend sur le rivage un sourd bruissement et les flots s'agitent comme d'eux-mêmes. Les innombrables pensées diverses qui se croisent et se mêlent à l'horizon du monde spirituel sont le signe qui annonce le lever du soleil des intelligences. Le murmure confus et le mouvement intérieur des peuples en émoi sont le signe précurseur de la tempête qui passera bientôt sur les nations tremblantes. Tenez-vous prêts, car les temps approchent. En ce jour-là, il y aura de grandes terreurs et des cris tels qu'on n'en a point entendu depuis les jours du déluge. Les rois hurleront sur leur trône. Ils chercheront à retenir avec les deux mains leur couronne emportée par les vents, et ils seront balayés avec elle. Les riches et les puissants sortiront nus de leur palais, de peur d'être ensevelis sous les ruines. On les verra, errant sur les chemins, demander aux passants quelques haillons pour couvrir leur nudité, un peu de pain noir pour apaiser leur faim, et je ne sais s'ils l'obtiendront. Et il y aura des hommes qui seront saisis de la soif du sang et qui adoreront la mort et qui voudront la faire adorer. Et la mort étendra sa main de squelette comme pour les bénir. Et cette bénédiction descendra sur leur cœur et il cessera de battre. Et les savants se troubleront dans leur science et elle leur apparaîtra comme un petit point noir quand se lèvera le soleil des intelligences. Et à mesure qu'il montera, sa chaleur fondra les nuages amoncelés par la tempête, et ils ne seront plus qu'une légère vapeur qu'un vent doux chassera vers le couchant. Jamais le ciel n'aura été aussi serein, ni la terre aussi verte et aussi féconde. Et au lieu du faible crépuscule que nous appelons jour, une lumière vive et pure rayonnera d'en haut, comme un reflet de la face de Dieu. Et les hommes se regarderont à cette lumière, et ils diront : nous ne connaissions ni nous, ni les autres. Nous ne savions pas ce que c'est que l'homme. À présent, nous le savons. Et chacun s'aimera dans son frère et se tiendra heureux de le servir. Et il n'y aura ni petit ni grand, à cause de l'amour qui égale tout. Et toutes les familles ne seront qu'une famille, et toutes les nations qu'une nation. Ceci est le sens des lettres mystérieuses que les Juifs aveugles attachèrent à la croix du Christ. 25. C'était une nuit d'hiver. Le vent soufflait au dehors et la neige blanchissait les toits. Sous un de ces toits, dans une chambre étroite, étaient assises, travaillant de leurs mains, une femme à cheveux blancs et une jeune fille. Et de temps en temps, la vieille femme réchauffait à un petit brasier ses mains pâles. Une lampe d'argile éclairait cette pauvre demeure, et un rayon de la lampe venait expirer sur une image de la Vierge suspendue au mur. Et la jeune fille, levant les yeux, regarda en silence pendant quelques moments la femme à cheveux blancs. Puis elle lui dit : « Ma mère, vous n'avez pas été toujours dans ce dénuement. » Et il y avait dans sa voix une douceur et une tendresse inexprimables. Et la femme aux cheveux blancs répondit : « Ma fille, Dieu est le maître. Ce qu'il fait est bien fait. » Ayant dit ces mots, elle se tut un peu de temps. Ensuite, elle reprit : « Quand je perdis votre père, ce fut une douleur que je crus sans consolation. Cependant, vous me restiez, mais je ne sentais qu'une chose alors. Depuis, j'ai pensé que s'il vivait et qu'il nous vit dans cette détresse, son âme se briserait. Et j'ai reconnu que Dieu avait été bon envers lui. » La jeune fille ne répondit rien, mais elle baissa la tête. Et quelques larmes qu'elle s'efforçait de cacher tombèrent sur la toile qu'elle tenait entre ses mains. La mère ajouta : « Dieu, qui a été bon envers lui, a été bon aussi envers nous. De quoi avons-nous manqué, tandis que d'autres manquent de tout ? Il est vrai qu'il a fallu nous habituer à peu, et ce peu, le gagner par notre travail. Mais ce peu ne suffit-il pas? Et tous n'ont-ils pas été, dès le commencement, condamnés à vivre de leur travail? Dieu, dans sa bonté, nous a donné le pain de chaque jour, et combien ne l'ont pas? Un abri, et combien ne savent tous se retirer? Il vous a, ma fille, donné à moi. De quoi me plaindrais-je? » À ces dernières paroles, la jeune fille, tout émue, tomba aux genoux de sa mère, prit ses mains, les baisa et se pencha sur son sein en pleurant. Et la mère, faisant un effort pour élever la voix, « Ma fille, dit-elle, le bonheur n'est pas de posséder beaucoup, mais d'espérer et d'aimer beaucoup. Notre espérance n'est pas ici-bas, ni notre amour non plus, ou s'il y est, ce n'est qu'en passant. Après Dieu, vous mettez tout en ce monde, mais ce monde s'évanouit comme un songe, et c'est pourquoi mon amour s'élève avec vous vers un autre monde. Lorsque je vous portais dans mon sein, un jour je priais avec plus d'ardeur la Vierge Marie, et elle m'apparut pendant mon sommeil, et il me semblait qu'avec un sourire céleste, elle me présentait un petit enfant. Et je pris l'enfant qu'elle me présentait, et lorsque je le tins dans mes bras, la Vierge Mère posa sur sa tête une couronne de roses blanches. Peu de mois après, vous naquîtes, et la douce vision était toujours devant mes yeux. » Ce disant, la femme aux cheveux blancs tressaillit, et serra sur son cœur la jeune fille. quelque temps de là, une âme sainte vit deux formes lumineuses monter vers le ciel, et une troupe d'anges les accompagnait, et l'air retentissait de leurs chants d'allégresse. 26. Ce que vos yeux voient, ce que touchent vos mains, ce ne sont que des ombres, et le son qui frappe à vos oreilles n'est qu'un grossier écho de la voix intime et mystérieuse qui adore et prie et gémit au sein de la création. Car toute créature gémit, toute créature est dans le travail de l'enfantement et s'efforce de naître à la vie véritable, de passer des ténèbres à la lumière, de la région des apparences à celle des réalités. Ce soleil si brillant, si beau, n'est que le vêtement, l'emblème obscur du vrai soleil qui éclaire et échauffe les âmes. Cette terre, si riche, si verdoyante, n'est que le pâle suaire de la nature, car la nature déchue aussi est descendue comme l'homme dans le tombeau, mais comme lui, elle en sortira. Sous cette enveloppe épaisse du corps, vous ressemblez à un voyageur qui, la nuit, dans sa tente, voit ou croit voir des fantômes passer. Le monde réel est voilé pour vous. Celui qui se retire au fond de lui-même l'y entrevoit comme dans le lointain. De secrètes puissances qui sommeillaient en lui se réveillent un moment, soulèvent un coin du voile que le temps retient de sa main ridée. Et l'œil intérieur est ravi des merveilles qu'il contemple. Vous êtes assis au bord de l'océan des êtres, mais vous ne pénétrez point dans ses profondeurs. Vous marchez le soir le long de la mer, et vous ne voyez qu'un peu d'écume que le flot jette sur le rivage. À quoi vous comparerais-je encore? Vous êtes comme l'enfant dans le sein de sa mère, attendant l'heure de la naissance, comme l'insecte ailé dans le ver qui rampe, aspirant à sortir de cette prison terrestre pour prendre votre essor vers les cieux. 27. Qui est-ce qui se pressait autour du Christ pour entendre sa parole? Le peuple. Qui est-ce qui le suivait dans la montagne et les lieux déserts pour écouter ses enseignements? Le peuple. Qui voulait le choisir pour roi? Le peuple. Qui étendait ses vêtements et jetait devant lui les palmes en criant Hosanna lors de son entrée à Jérusalem? Le peuple. Qui est-ce qui se scandalisait à cause des malades qu'il guérissait le jour du sabbat? Les scribes et les pharisiens. Qui l'interrogeait insidieusement et lui tendait des pièges pour le perdre? Les scribes et les pharisiens. Qui disait de lui « Il est possédé » ? Qui l'appelait un homme de bonne chair et aimant le plaisir ? Les scribes et les pharisiens. Qui le traitait de séditieux et de blasphémateur ? Qui se ligua pour le faire mourir ? Qui le crucifia sur le calvaire entre deux voleurs ? Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, le roi Hérode et ses courtisans, le gouverneur romain et les princes des prêtres. Leur astuce hypocrite trompa le peuple même. Ils le poussèrent à demander la mort de celui qu'il avait nourri dans le désert avec sept pains, qui rendait aux infirmes la santé, la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, et aux perclus l'usage de leurs membres. Mais Jésus, voyant qu'on avait séduit ce peuple comme le serpent séduisit la femme, pria son père, disant « Mon père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cependant, depuis 18 siècles, le Père ne leur a pas encore pardonné. Et ils traînent leur supplice par toute la terre. Et par toute la terre, l'esclave est contraint de se baisser pour les voir. La miséricorde du Christ est sans exclusion. Il est venu en ce monde pour sauver, non pas quelques hommes, mais tous les hommes. Il a eu, pour chacun d'eux, une goutte de sang. Mais les petits, les faibles, les humbles, les pauvres, tous ceux qui souffraient, il les aimait d'un amour de prédilection. Son cœur battait sur le cœur du peuple, et le cœur du peuple battait sur son cœur. Et c'est là, sur le cœur du Christ, que les peuples malades se raniment et que les peuples opprimés reçoivent la force de s'affranchir. Malheur à ceux qui s'éloignent de lui, qui le renient. Leur misère est irrémédiable et leur servitude éternelle. 28. On a vu des temps où l'homme, en égorgeant l'homme dont les croyances différaient des siennes, se persuadait offrir un sacrifice agréable à Dieu. Ayez en abomination ces meurtres exécrables. Comment le meurtre de l'homme pourrait-il plaire à Dieu, qui a dit à l'homme « Tu ne tueras point ». Lorsque le sang de l'homme coule sur la terre comme une offrande à Dieu, les démons accourent pour le boire et entrent dans celui qui l'a versé. On ne commence à persécuter que quand on désespère de convaincre, et qui désespère de convaincre ou blasphème en lui-même la puissance de la vérité ou manque de confiance dans la vérité des doctrines qu'il annonce. Quoi de plus insensé que de dire aux hommes « croyez ou mourrez ». La foi est fille du Verbe. Elle pénètre dans les cœurs avec la parole et non avec le poignard. Jésus passa en faisant le bien, attirant à lui par sa bonté et touchant par sa douceur les âmes les plus dures. Ses lèvres divines bénissaient et ne maudissaient point, si ce n'est les hypocrites. Il ne choisit pas des bourreaux pour apôtres. Il disait aux siens, « Laissez croître ensemble jusqu'à la moisson le bon et le mauvais grain. » Le père de famille en fera la séparation sur l'air. Et à ceux qui le pressaient de faire descendre le feu du ciel sur une ville incrédule, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. L'esprit de Jésus est un esprit de paix, de miséricorde et d'amour. Ceux qui persécutent en son nom, qui scrutent les consciences avec l'épée, qui torturent le corps pour convertir l'âme, qui font couler les pleurs au lieu de les essuyer, ceux-là n'ont pas l'esprit de Jésus. Malheur à qui profane l'Évangile, en le rendant pour les hommes un objet de terreur. Malheur à qui écrit la bonne nouvelle sur une feuille sanglante. Ressouvenez-vous des catacombes. En ce temps-là, on vous traînait à l'échafaud. On vous livrait à des bêtes féroces dans l'amphithéâtre pour amuser la populace. On vous jetait à milliers au fond des mines et dans les prisons. On confisquait vos biens. On vous foulait aux pieds comme de la boue des places publiques. Et vous n'aviez, pour célébrer vos mystères proscrits, d'autre asile que les entrailles de la terre. Que disaient vos persécuteurs? Ils disaient que vous propagiez des doctrines dangereuses, que votre secte, ainsi qu'ils l'appelaient, troublait l'ordre et la paix publique. Que, violateurs des lois et ennemis du genre humain, vous ébranliez l'Empire en ébranlant la religion de l'Empire. Et dans cette détresse, sous cette oppression, que demandiez-vous? La liberté. Vous réclamiez le droit de n'obéir qu'à Dieu, de le servir et de l'adorer selon votre conscience. Lorsque, même en se trompant dans leur foi, d'autres réclameront de vous ce droit sacré, respectez-le en eux, comme vous demandiez que les païens le respectassent en vous. Respectez-le pour ne pas flétrir la mémoire de vos confesseurs et ne pas souiller les cendres de vos martyrs. La persécution a deux tranchants. Elle blesse à droite et à gauche. Si vous ne vous souvenez plus des enseignements du Christ, ressouvenez-vous des catacombes. 29. Gardez soigneusement en vos âmes la justice et la charité. Elles seront votre sauvegarde. Elles banniront d'au milieu de vous les discordes et les dissensions. Ce qui produit les discordes et les dissensions, ce qui engendre les procès qui scandalisent les gens de bien et ruinent les familles, c'est premièrement l'intérêt sordide, la passion insatiable d'acquérir et de posséder. Combattez donc sans cesse en vous cette passion que Satan y excite sans cesse. Qu'emporterez-vous de toutes les richesses que vous aurez amassées par de bonnes et de méchantes voies? Peu suffit à l'homme qui vit si peu de temps. Une autre cause de dissension interminable, ce sont les mauvaises lois. Or, il n'y a guère que de mauvaises lois dans le monde. Quelle autre loi faut-il à celui qui a la loi du Christ ? La loi du Christ est claire, elle est sainte, et il n'est personne, s'il a cette loi dans le cœur, qui ne se juge lui-même aisément. Écoutez ce qui m'a été dit. Les enfants du Christ, s'ils ont entre eux quelques différends, ne doivent pas les porter devant les tribunaux de ceux qui oppriment la terre et qui la corrompent. N'y a-t-il pas des vieillards parmi eux ? Et ces vieillards ne sont-ils pas leurs pères, connaissant la justice et l'aimant ? Qu'ils aillent donc trouver un de ces vieillards et qu'ils lui disent « Mon père, nous n'avons pu nous accorder, moi et mon frère que voilà. Nous vous en prions, jugez entre nous. » Et le vieillard écoutera les paroles de l'un et de l'autre et il jugera entre eux. Et, ayant jugé, il les bénira. Et s'ils se soumettent à ce jugement, la bénédiction demeurera sur eux. Sinon, elle reviendra au vieillard qui aura jugé selon la justice. Il n'est rien que ne puissent ceux qui se sont unis, soit pour le bien, soit pour le mal. Le jour donc où vous serez unis sera le jour de votre délivrance. Lorsque les enfants d'Israël étaient opprimés dans la terre d'Égypte, si chacun d'eux, oubliant ses frères, avait voulu sortir seul, pas un n'aurait échappé. Ils sortirent tous ensemble, et nul ne les arrêtera. Vous êtes aussi dans la terre d'Égypte, courbés sous le sceptre de Pharaon et sous le fouet de ses exacteurs. Criez vers le Seigneur, votre Dieu, et puis levez-vous et sortez ensemble. 30. Quand la charité se fut refroidie et que l'injustice eut commencé à croître sur la terre, Dieu dit à un de ses serviteurs, « Va de ma part trouver ce peuple et annonce-lui ce que tu verras. Et ce que tu verras arrivera certainement, à moins que, quittant ses voies mauvaises, il ne se repente et ne revienne à moi. » Et le serviteur de Dieu obéit à son commandement, et s'étant revêtu d'un sac et ayant répandu de la cendre sur sa tête, il s'en alla vers cette multitude, et élevant la voix, il disait « Pourquoi irritez-vous le Seigneur pour votre perte ? Quittez vos voies mauvaises Repentez-vous et revenez à lui. » Et les uns, écoutant ces paroles, en étaient touchés. Et les autres s'en moquaient en disant « Qui est celui-ci ? Et que vient-il nous dire ? Qui l'a chargé de nous reprendre ? C'est un insensé. » Et voilà, l'Esprit de Dieu saisit le prophète, et le temps s'ouvrit à ses yeux, et les siècles passèrent devant lui. Et tout à coup, déchirant ses vêtements, « Ainsi, dit-il, sera déchirée la famille d'Adam. Les hommes d'iniquité ont mesuré la terre au cordeau. Ils en ont compté les habitants comme on compte le bétail, tête à tête. Ils ont dit, « Partageons-nous cela et faisons-en une monnaie à notre usage. » Et le partage s'est fait. Et chacun a pris ce qui lui était échu. Et la terre et ses habitants sont devenus la possession des hommes d'iniquité. Et se consultant tous ensemble, ils se sont demandé « Combien vaut notre possession ?» Et tous ensemble, ils ont répondu « 30 deniers. » Et ils ont commencé à trafiquer entre eux avec ces 30 deniers. Il y a eu des achats, des ventes, des trocs, des hommes pour de la terre pour des hommes, et de l'or pour appoint. Et chacun a convoité la part de l'autre, et ils se sont mis à s'entr'égorger pour se dépouiller mutuellement. Et avec le sang qui coulait, ils ont écrit sur un morceau de papier « droit » et sur un autre « gloire ». Seigneur, assez! Assez. En voilà deux qui jettent leur croc de fer sur un peuple. Chacun en emporte son lambeau. Le glaive a passé et repassé. Entendez-vous ces cris déchirants ? Ce sont les plaintes des jeunes épouses et les lamentations des mères. Deux spectres se glissent dans l'ombre. Ils parcourent les campagnes et les cités. L'un, décharné comme un squelette, ronge un débris d'animal immonde. L'autre a sous l'aisselle une pustule noire, et les chacals le suivent en hurlant. Seigneur, Seigneur, votre courroux sera-t-il éternel? Votre bras ne s'étendra-t-il jamais que pour frapper? Épargnez les pères à cause des enfants. Laissez-vous attendrir aux pleurs de ces pauvres petites créatures qui ne savent pas encore distinguer leur main gauche de la droite. Le monde s'élargit. La paix va renaître. Il y aura place pour tous. Malheur, malheur, le sang déborde. Il entoure la terre comme une ceinture rouge. Quel est ce vieillard qui parle de justice en tenant d'une main une coupe empoisonnée et caressant de l'autre une prostituée qui l'appelle mon père ? Il dit, « C'est à moi qu'appartient la race d'Adam. Qui sont parmi vous les plus forts ? Et je la leur disputerai. » Et ce qu'il a dit, il le fait. Et de son trône, sans se lever, il assigne à chacun sa proie. Et tous dévorent, dévorent, et leur faim va croissant. Et ils se ruent les uns sur les autres, et la chair palpite, et les os craquent sous la dent. Un marché s'ouvre. On y amène les nations, la corde au cou. On les palpe, on les pèse, on les fait courir et marcher. Elles valent tant. Ce ne sont plus le tumulte et la confusion d'auparavant. C'est un commerce régulier. Heureux les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Nul ne les contraint. Ils vont et viennent comme il leur semble bon. Qu'est-ce que ces meules qui tournent sans cesse? Et que broient-elles? Fils d'Adam, ces meules sont les lois de ceux qui vous gouvernent. et ce qu'elle broie, c'est vous. Et à mesure que le prophète jetait sur l'avenir ses lueurs sinistres, une frayeur mystérieuse s'emparait peu à peu de ceux qui l'écoutaient. Alors, le prophète: Seigneur, vous n'avez point abandonné ce peuple dans sa misère. Vous ne l'avez pas livré pour jamais à ses oppresseurs. Et il prit deux rameaux, et il en détacha les feuilles, et les ayant croisées, il les lia ensemble. Et il les éleva au-dessus de la multitude, disant: Ceci sera votre salut. Vous vaincrez par ce signe. Et la nuit se fit, et le prophète disparut comme une ombre qui passe, et la multitude se dispersa de tous côtés dans les ténèbres. 31. Lorsqu'après une longue sécheresse, une pluie douce tombe sur la terre, elle boit avidement l'eau du ciel qui la rafraîchit et la féconde. Et ainsi, les nations altérées boiront avidement la parole de Dieu lorsqu'elle descendra sur elles comme une tiède ondée. Et la justice avec l'amour et la paix et la liberté germeront dans leur sein. Et ce sera comme au temps où tous étaient frères. Et l'on n'entendra plus la voix du maître, ni la voix de l'esclave, les gémissements du pauvre, ni les soupirs des opprimés, mais des chants d'allégresse et de bénédiction. Les pères diront à leurs fils: Nos premiers jours ont été troublés, pleins de larmes et d'angoisses. Maintenant le soleil se lève et se couche sur notre joie. Loué soit Dieu qui nous a montré ses biens avant de mourir. Et les mères diront à leurs filles: Voyez nos fronts, à présent si calmes. Le chagrin, la douleur, l'inquiétude y creusèrent jadis de profonds sillons. Les vôtres sont comme au printemps, la surface d'un lac qu'aucune brise n'agite. Loué soit Dieu qui nous a montré ses biens avant de mourir. Et les jeunes hommes diront aux jeunes vierges: Vous êtes belles comme les fleurs des champs, pures comme la rosée qui les rafraîchit, comme la lumière qui les colore. Il nous est doux de voir nos pères, il nous est doux d'être auprès de nos mères. Mais quand nous vous voyons et que nous sommes près de vous, il se passe en nos âmes quelque chose qui n'a de nom qu'au ciel. Loué soit Dieu qui nous a montré ses biens avant de mourir. Et les jeunes vierges répondront: Les fleurs se fanent, elles passent. Vient un jour où ni la rosée ne les rafraîchit, ni la lumière ne les colore plus. Il n'y a sur la terre que la vertu, qui jamais ne se fane ni ne passe. Nos pères sont comme l'épi qui se remplit de grains vers l'automne, et nos mères comme la vigne qui se charge de fruits. Il nous est doux de voir nos pères, il nous est doux d'être auprès de nos mères. Et les fils de nos pères et de nos mères nous sont doux aussi. Loué soit Dieu qui nous a montré ses biens avant de mourir. 32. Je voyais un être monté à une prodigieuse hauteur. Du sommet, presque jusqu'au bas, il étalait d'énormes branches qui couvraient la terre alentour, de sorte qu'elle était nue. Il n'y venait pas un seul brin d'herbe. Du pied du géant partait un chêne, qui, après s'être élevé de quelques pieds, se courbait, se tordait, puis s'étendait horizontalement, puis se relevait encore et se tordait de nouveau. Et enfin, on l'apercevait, allongeant sa tête maigre et dépouillée, sous les branches vigoureuses du hêtre, pour chercher un peu d'air et un peu de lumière. et je pensais en moi-même, « Voilà comme les petits croissent à l'ombre des grands. Qui se rassemble autour des puissants du monde? Qui approche d'eux? Ce n'est pas le pauvre, on le chasse. Sa vue souillerait leur regard. On l'éloigne avec soin de leur présence et de leur palais. On ne les laisse pas même traverser leur jardin ouvert à tous, hormis à lui, parce que son corps usé de travail est recouvert des vêtements de l'indigence. Qui donc se rassemble autour des puissants du monde? Les riches et les flatteurs qui veulent le devenir, les femmes perdues, les ministres infâmes de leurs plaisirs secrets, les baladins, les fous qui distraient leur conscience, et les faux prophètes qui la trompent. Qui encore? Les hommes de violence et de ruse, les agents d'oppression, les durs exacteurs, tous ceux qui disent « Livrez-nous le peuple et nous ferons couler son or dans vos coffres et sa graisse dans vos veines. » Là où gît le corps, les aigles s'assembleront. Les petits oiseaux font leur nid dans l'herbe et les oiseaux de proie sur les arbres élevés. 33. Au temps où les feuilles jaunissent, un vieillard chargé d'un fait de ramée revenait lentement vers sa chaumière située sur la pente d'un vallon. Et du côté où s'ouvrait le vallon, entre quelques arbres jetés çà et là, on voyait les rayons obliques du soleil, déjà descendus sous l'horizon, se jouer dans les nuages du couchant et les teindre de couleurs innombrables qui peu à peu allaient s'effaçant. Et le vieillard arrivait à sa chaumière, son seul bien avec le petit champ qu'il cultivait auprès, laissa tomber le fait de la ramée, s'assit sur un siège de bois noirci par la fumée de l'âtre et baissa la tête sur sa poitrine dans une profonde rêverie. Et de fois à autre, sa poitrine gonflée laissait échapper un court sanglot et d'une voix cassée, il disait « Je n'avais qu'un fils, ils me l'ont pris. Qu'une pauvre vache, ils me l'ont prise pour l'impôt de mon champ. » Et puis, d'une voix plus faible, il répétait « Mon fils, mon fils. » Et une larme venait mouiller ses vieilles paupières, mais elle ne pouvait couler. Comme il était ainsi s'attristant, il entendit quelqu'un qui disait « Mon père, que la bénédiction de Dieu soit sur vous et sur les vôtres. » « Les miens, dit le vieillard, je n'ai plus personne qui tienne à moi, je suis seul. » Et, levant les yeux, il vit un pèlerin debout, à la porte, appuyé sur un long bâton. Et, sachant que c'est Dieu qui envoie les hôtes, il lui dit « Que Dieu vous rende votre bénédiction. Entrez, mon fils. Tout ce qu'a le pauvre est au pauvre. » Et, allumant sur le foyer son fait de ramée, il se mit à préparer le repas du voyageur. Mais rien ne pouvait le distraire de la pensée qui l'oppressait. Elle était là, toujours, sur son cœur. Et le pèlerin, ayant connu ce qui le troublait si amèrement, lui dit « Mon père, Dieu vous éprouve par la main des hommes. Cependant, il y a des misères plus grandes que votre misère. Ce n'est pas l'opprimé qui souffre le plus, ce sont les oppresseurs. » Le vieillard secoua la tête et ne répondit point. Le pèlerin reprit. Ce que maintenant vous ne croyez pas, vous le croirez bientôt. » Et, l'ayant fait asseoir, il posa les mains sur ses yeux. Et le vieillard tomba dans un sommeil, semblable au sommeil pesant, ténébreux, plein d'horreur, qui saisit Abraham quand Dieu lui montra les malheurs futurs de sa race. Et il lui sembla être transporté dans un vaste palais, près d'un lit, et à côté du lit était une couronne. Et dans ce lit un homme qui dormait. Et ce qui se passait dans cet homme, le vieillard le voyait, ainsi que le jour, durant la veille, on voit ce qui se passe sous les yeux. Et l'homme qui était là, couché sur un lit d'or, entendait comme les cris confus d'une multitude qui demande du pain. C'était un bruit pareil au bruit des flots qui brisent contre le rivage pendant la tempête. Et la tempête croissait, et le bruit croissait, et l'homme qui dormait voyait les flots monter de moment en moment et battre les murs du palais. Et il faisait des efforts inouïs comme pour fuir, et il ne pouvait pas. Et son angoisse était extrême. Pendant qu'il le regardait avec frayeur, le vieillard fut soudain transporté dans un autre palais. Celui qui était couché là ressemblait plutôt à un cadavre qu'à un homme vivant. Et dans son sommeil, il voyait devant lui des têtes coupées. Et ouvrant la bouche, ces têtes disaient « Nous nous étions dévoués pour toi, et voilà le prix que nous avons reçu. Dors, dors, nous ne dormons pas, nous. Nous veillons l'heure de la vengeance. Elle est proche. » Et le sang se figeait dans les veines de l'homme endormi. Et il se disait « Si au moins je pouvais laisser ma couronne à cet enfant. » Et ses yeux hagards se tournaient vers un berceau sur lequel on avait posé un bandeau de reine. Mais lorsqu'il commençait à se calmer et à se consoler un peu de cette pensée, un autre homme, semblable à lui par les traits, saisit l'enfant et l'écrasa contre la muraille. Et le vieillard se sentit défaillir d'horreur. Et il fut transporté au même instant, en deux lieux divers, et quoique séparés, ces lieux, pour lui, ne formaient qu'un lieu. Et il vit deux hommes, qu'à l'âge près, on aurait pu prendre pour le même homme. Et il comprit qu'ils avaient été nourris dans le même sein. Et leur sommeil était celui du condamné qui attend le supplice à son réveil. Des ombres enveloppées d'un linceul sanglant passaient devant eux, et chacune d'elles, en passant, les touchait, et leurs membres se retiraient et se contractaient, comme pour se dérober à cet attouchement de la mort. Puis ils se regardaient l'un l'autre avec une espèce de sourire affreux, et leur œil s'enflammait, et leurs mains s'agitaient convulsivement sur un manche de poignard. Et le vieillard vit ensuite un homme, blême et maigre. Les soupçons se glissaient en foule près de son lit, distillaient leur venin sur sa face, murmuraient à voix basse des paroles sinistres et enfonçaient lentement leurs ongles dans son crâne, mouillé d'une sueur froide. Et une forme humaine, pâle comme un suaire, s'approcha de lui et, sans parler, lui montra du doigt une marque livide qu'elle avait autour du cou. Et dans le lit où il gisait, les genoux de l'homme blême se choquèrent, et sa bouche s'entr'ouvrit de terreur, et ses yeux se dilatèrent horriblement. Et le vieillard, transi d'effroi, fut transporté dans un palais plus grand, et celui qui dormait là ne respirait qu'avec une peine extrême. Un spectre noir était accroupi sur sa poitrine et le regardait en ricanant. Et il lui parlait à l'oreille. Et ses paroles devenaient des visions dans l'âme de l'homme qu'il pressait et foulait de ses os pointus. Et celui-ci se voyait entouré d'une innombrable multitude qui poussait des cris effrayants. « Tu nous as promis la liberté et tu nous as donné l'esclavage. » Tu nous as promis de régner par les lois, et les lois ne sont que tes caprices. Tu nous as promis d'épargner le pain de nos femmes et de nos enfants, et tu as doublé nos misères pour grossir tes trésors. Tu nous as promis de la gloire, et tu nous as valu le mépris des peuples et leur juste haine. Descends, descends, et va dormir avec les parjures et les tyrans. » Et il se sentait précipité, traîné par cette multitude, et ils s'accrochaient à des sacs d'or, et les sacs crevaient, et l'or s'échappait et tombait à terre. Et il lui semblait qu'il errait pauvre dans le monde, et qu'ayant soif, il demandait à boire par charité, et qu'on lui présentait un verre plein de boue, et que tous le fuyaient, tous le maudissaient, parce qu'il était marqué au front du signe des traîtres. Et le vieillard détourna les yeux avec dégoût. Et dans deux autres palais, il vit deux autres hommes rêvant de supplice. Car, disait-il, où trouverons-nous quelque sûreté? Le sol est miné sous nos pieds. Les nations nous abhorrent. Les petits-enfants même, dans leurs prières, demandent à Dieu le soir et le matin que la terre soit délivrée de nous. Et l'un condamnait à la prison dure, c'est-à-dire à toutes les tortures du corps et de l'âme, et à la mort de la faim, des malheureux qu'il soupçonnait d'avoir prononcé le mot de patrie. Et l'autre, après avoir confisqué leurs biens, ordonnait de jeter au fond d'un cachot deux jeunes filles, coupables d'avoir soigné leur frère blessé dans un hôpital. Et comme ils se fatiguaient à ce travail de bourreau, des messagers leur arrivèrent. Et l'un des messagers disait « Vos provinces du Midi ont brisé leurs chaînes, et avec les tronçons, elles ont chassé vos gouverneurs et vos soldats. » Et l'autre « Vos aigles ont été déchirés sur les bords du large fleuve. Ses flots en emportent les débris. » Et les deux rois se tordaient sur leur couche. Et le vieillard en vit un troisième. Il avait chassé Dieu de son cœur. Et dans son cœur, à la place de Dieu, était un ver qui le rongeait sans relâche. Et quand l'angoisse devenait plus vive, il balbutiait de sourds blasphèmes, et ses lèvres se couvraient d'une écume rougeâtre. Et il lui semblait être dans une plaine immense, seul avec le ver qui ne le quittait point. Et cette plaine était un cimetière, le cimetière d'un peuple égorgé. Et tout à coup, voilà que la terre s'émeut, les tombeaux s'ouvrent, les morts se lèvent et s'avancent en foule, et il ne pouvait ni faire un mouvement, ni pousser un cri. Et tous ces morts, hommes, femmes, enfants, le regardait en silence. Et après un peu de temps, dans le même silence, ils prirent les pierres des tombes et les posèrent autour de lui. Il en eut d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la poitrine, puis jusqu'à la bouche, et il tendait avec effort les muscles de son cou pour respirer une fois de plus. Et l'édifice montait toujours. Et lorsqu'il fut achevé, le faîte se perdait dans une nuée sombre. Les forces du vieillard commençaient à l'abandonner. Son âme regorgeait d'épouvante. Et voilà qu'ayant traversé plusieurs salles désertes, dans une petite chambre, sur un lit, qu'éclairait à peine une lampe pâle, il aperçoit un homme, usé par les ans. Autour du lit étaient sept peurs, quatre d'un côté, trois de l'autre. Et l'une des peurs posa la main sur le cœur de l'homme âgé, et il tressaillit, et ses membres tremblèrent, et la main resta là, tant qu'elle sentit un peu de chaleur. Et après celle-ci, une autre, plus froide, fit ce qu'avait fait la première, et toutes posèrent la main sur le cœur de l'homme âgé. Et il se passa en lui des choses qu'on ne peut dévoiler. Il voyait dans le lointain, vers le pôle, un fantôme horrible qui lui disait « Donne-toi à moi, et je te réchaufferai de mon haleine. » Et de ses doigts glacés, l'homme de peur écrivait un pacte, je ne sais quel pacte, mais chaque mot en était comme d'un râle d'agonie. Et ce fut la dernière vision. Et le vieillard, s'étant réveillé, rendit grâce à la Providence de la part qu'elle lui avait faite dans les douleurs de la vie. Et le pèlerin lui dit « Espérez et priez. La prière obtient tout. Votre fils n'est pas perdu. Vos yeux le reverront avant de se fermer. Attendez en paix les jours de Dieu. » Et le vieillard attendit en paix.